Capítulo 7. El tour del terror. Le lendemain, Rémy se sentait épuisé et Mila, comme tous les jours, était partie à 6 heures du matin pour enregistrer son émission. Rémy a donc demandé à Pelayo d'être mon guide dans Madrid.
« Vale, dijo Pelayo, pero será un tour del terror. Te vas a cagar de miedo.
¿Cagar? Pelayo se echó a reír.
Siempre tan educadita.
Es una palabra importante. Todo el mundo caga. Il a imité quelqu'un qui serait aux toilettes en pleine constipation.
Los españoles nos cagamos en todo.
En la leche, en la mar salada, en la hostia, en mis muertos e incluso en Dios. Me cago en la leche, me cago en la hostia. J'avais déjà entendu certaines de ces expressions dans la rue. C'était déjà très bizarre de chier sur le lait, sur la mer salée, sur l'hostie ou sur mes morts, mais sur Dieu? Il fallait être un peuple très catholique pour pouvoir se permettre de telles familiarités avec le Créateur. Il était évident que Pelayo voulait me choquer. J'ai essayé de rester impassible.
« Puedes estar tranquilo, le respondit. No tengo problemas de intestino.
El tour del terror comenzó por la casa de las 7 chimeneas. Chacune des cheminées correspondait à l'un des 7 péchés capitaux. Pelayo s'est fait un plaisir de me les énumérer. Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia. Il m'a demandé de les lui traduire en français. Luxure, gourmandise, avarice, paresse, colère, envie, orgueil. Il m'a expliqué que cette maison était maudite et qu'on y avait trouvé les cadavres de plusieurs femmes emmurées, dont la maîtresse de Philippe II, probablement assassinée sur ordre du monarque lui-même. Beaucoup de gens avaient vu son spectre depuis, marchant parmi les 7 cheminées et pointant un bras accusateur vers l'Alcázar, l'ancienne résidence du roi. Después de la casa de las 7 chimeneas, Pelayo me llevó al Palacio de Linares, otro lugar habitado por los fantasmas de una familia llena de crímenes y secretos. Allí, me explicó, se habían oído todo tipo de ruidos extraños. ¿Des bruits étranges? J'entendais juste les gargouillements de mon ventre. J'avais encore du mal à m'adapter aux horaires tardifs des repas espagnols. Du Palacio de Linares, fuimos andando al Parque del Retiro. Pelayo m'a montré la statue del Ángel Caído, l'ange déchu. Es la única estatua dedicada al diablo en una ciudad europea, m'a-t-il dit avec fierté. Dicen que aquí se organizan misas negras clandestinas. Il s'est arrêté ensuite dans une avenue du parc bordée de statues et de vieux arbres majestueux.
¿Te acuerdas del doctor Velasco? M'a-t-il demandé.
Claro.
Por aquí solía pasearse en su calesa.
Después de una pausa, añadió,
acompañado por el cadáver momificado de su hija.
Une promenade en calèche avec le cadavre momifié de sa fille.
Ni cette histoire, ni celle que j'avais entendue pendant toute la matinée n'avaient réussi à me couper l'appétit.
On s'est allongé au bord de l'étang du parc pour manger les sandwichs au chorizo que Rémy nous avait préparés. Si on fermait les yeux, on se croyait à la plage. À quelques mètres à notre droite, un musicien de rue jouait du flamenco. Un peu plus loin, une femme imposante entonnait des airs d'opéra. En face, du côté d'un grand monument blanc avec des colonnades, un groupe de jeunes s'était réuni pour faire des percussions africaines. Le résultat était une joyeuse pagaille.
Si yo era un fantasma, si yo fuera, me corrigió Pelayo. Si yo fuera un fantasma, también querría.
Pelayo a approuvé d'un hochement de tête. También querría volver a la vida aquí, en Madrid. Pelayo n'a pas réagi. Peut-être qu'il ne m'a pas comprise. Ce que je voulais dire, c'est que Madrid me semblait une ville tellement gaie que si j'étais morte, je ferais aussi tout mon possible pour y revenir, ne serait-ce que sous la forme d'un fantôme. Ou peut-être qu'il m'avait bien comprise et qu'il n'avait pas aimé mon commentaire. Ce garçon prenait tellement au sérieux tout ce qui avait à voir avec le surnaturel.
¿De verdad crees en los fantasmas?, le pregunté.
Pelayo me regardé, presque offensé.
Claro que sí. ¿Tú no? ¿Después de lo que te ha pasado?
Je n'ai pas su quoi lui répondre. D'un côté, je n'avais aucune explication rationnelle pour justifier mes rêves en espagnol et le sentiment de déjà-vu qui m'avait assailli la veille. D'un autre côté, j'étais quand même la fille de mon père et j'avais du mal à croire aux esprits. En parlant à Pelayo de mon père, je me suis rendu compte qu'il ne m'avait jamais parlé du sien.
¿Y tu padre?, le pregunté.
Pelayo desvió la mirada hacia el agua del estanque.
Murió de un cáncer cuando yo era pequeño.
J'ai été touchée. Pelayo aussi était à moitié orphelin.
Mi madre también.
En un accidente de coche, cuando yo tenía 4 años, le dije. A la façon dont il m'a regardé, j'ai compris que lui aussi était ému.
¿No la echas de menos?, m'a-t-il demandé.
Si elle me manquait,
bien sûr.
Remé me dijo que mi madre vivía en mí, le dije.
Tenía razón.
Si no hubiera muerto, no sería la que yo soy ahora. ¿Entiendes? Ce que je voulais dire, c'est que si ma mère n'était pas morte, j'aurais été quelqu'un de complètement différent. Et comme on a toujours du mal à s'imaginer différent de ce que l'on est, et qu'au fond, on s'aime toujours un petit peu, j'étais arrivée dans une certaine mesure à accepter sa mort. Décidément, ce jour-là, j'avais des idées bien compliquées à traduire en espagnol.
Me gustaría saber más sobre mi madre. Mi padre nunca me habla de ella, me lamenté. Mi madre tampoco habla nunca de mi padre. Trabaja todo el día, m'a dit Pelayo.
Finalement, avoir une mère magicienne n'était pas si différent d'avoir un père ingénieur.
Cuando sea maestro de la Orden del Fénix Negro, me pondré en contacto con su espíritu.
Tout d'un coup, je me suis dit que l'obsession de Pelayo pour les fantômes naissait peut-être du désir de communiquer avec son père mort. Il m'avait souvent agacé avec ses histoires sinistres et ses airs de supériorité, mais là, je commençais à le trouver touchant. Nous étions bien fatigués après notre tour del terror et on a pris le métro pour rentrer à la maison.
Pelayo estuvo silencioso durante un buen momento.
Je pensais qu'il avait épuisé son stock de légendes urbaines, mais je me trompais. Pendant qu'on attendait sur le quai et l'anden, il s'est réveillé pour me raconter la légende du 10e métro de la ligne 5. À partir de 22h, si on laissait passer 9 métros, le 10e était rempli des âmes errantes de tous ceux qui étaient morts dans le réseau souterrain. Celui qui y montait disparaissait pour toujours.
Se cuenta el caso de un chico que entró en esta estación a las 10:10, dijo Pelayo, bajando el tono de voz con aire misterioso. Estaba tan cansado que se quedó dormido y no se dio cuenta de que habían pasado 9 metros. Se despertó cuando llegó el 10º metro y se subió. Desapareció. Nunca más se ha vuelto a saber de él.
Le soir, alors que j'avais la tête remplie de toutes ces histoires d'horreur, j'ai reçu un nouveau coup de fil de mon père.
« Ça va ? Il paraît qu'il pleut beaucoup en Allemagne. » À la télé, on parle même d'inondations.
On s'était promené toute la journée par 35 degrés sous un soleil de plomb. La seule pluie qui avait ruisselé sur moi, c'était les gouttes de sueur sur mon front.
« Oui, c'est vrai, il pleut beaucoup, » ai-je répondu. « Mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on a passé des heures au musée Goethe. C'était super. »
Juste avant de m'endormir, je n'ai pas résisté à la tentation d'ouvrir les rideaux et de jeter un coup d'œil à l'ancien appartement du docteur Velasco. Les fenêtres étaient fermées. On ne voyait aucune lumière à l'intérieur. Mon regard a glissé vers la rue. Pendant toute la journée, j'avais entendu parler de crimes et de revenants sans éprouver la moindre inquiétude. Ce que j'ai découvert au pied de l'ancien immeuble du docteur Velasco m'a glacé le sang. J'ai étouffé un cri. Debout, sur le trottoir, l'homme en noir que j'avais aperçu au viaducto regardait en direction de ma fenêtre.